Donc, avant de commencer, je voudrais vous partager, vous raconter le téléchargement de ce message. Une nuit, au mois de février dernier, je ne dormais pas. Vraisemblablement, le marchand de sable m'avait oublié. Et quand on ne dort pas, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne, on retourne dans le lit. Je regardais le radio réveil qui marquait tchim, tchim, tchim. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, moi, je ne dors pas. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Donc, voilà, j'ai proposé au Seigneur un petit papotage nocturne. J'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, voilà, là, j'ai le temps. Il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai vu défiler dans ma tête, c'était comme un PowerPoint pour un message. Avec tous les détails. Hein. Alors, j'ai fait remarquer au Seigneur combien tout cela me semblait peu conventionnel. Mais je lui ai dit, écoute, si vraiment c'est ce que tu veux, alors que si demain matin, quand je me réveille, parce que maintenant tu vas me laisser dormir, hein, et donc oui, je me suis endormie, quand je me réveille demain matin, si c'est aussi clair dans ma tête, alors je noterai tout cela. Je me suis réveillée le lendemain matin, je n'avais pas encore ouvert mes paupières, que tout défilait. Donc voilà, j'ai noté. Alors si vous trouvez que ce n'est pas comme d'habitude, ben, vous comprendrez pourquoi, ce n'est pas moi. Hein. Donc ce soir, j'aimerais vous entraîner dans une réflexion sur la valeur de chacun, sur ma valeur, sur ta valeur. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que c'est ce que chacun est qui fera ce que la famille Josué sera. Souvent, on part de la globalité, on part du groupe et on va vers l'individu. Mais je pense que pour avoir la qualité, il faut partir de l'individu et aller vers le groupe. Vous savez, dernièrement, nous avons dû envisager des travaux sur notre toiture. Alors, on a fait faire plusieurs devis. Et un c'était pas un technicien, c'était un commercial qui est venu pour faire le devis, a dit cette phrase, ça fait tilt parce que j'étais déjà en train de cogiter. C'est la qualité de chaque tuile qui fait la qualité de la toiture. C'est la qualité de chaque tuile qui fait la qualité de la toiture. Bon, lui, il doit dire ça à tous ses clients. Mais moi, pour moi, j'ai pris ça comme un clin d'œil du Seigneur. Alors ce soir, je vous invite à parler tuiles, briques, architectes, construction. On va commencer avec Matthieu, chapitre 7, les versets 24 et 25. On connaît tous par cœur. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé les fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute les paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. Alors j'ai des souvenirs des enfants, vous savez, le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Ça, ils aimaient. Bon, nous connaissons tous cette histoire. Alors, ce sont deux projets de construction, deux budgets prévisionnels, deux visions de la maison écolo. D'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire, vous savez, avec trois petits cochons, puis trois maisons. Il y en avait un, c'était un gros flemmard, alors il a fait... Hein. L'autre, c'était un moyen flemmard. Le troisième était très consciencieux. Il a bâti sa maison sur le roc. Et c'était pareil, c'était trois maisons, trois choix de matériaux. Alors, la qualité du matériau fait la solidité de la maison face à l'épreuve et à la tempête. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, nous parle de construction. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous aussi, nous aussi, moi aussi, nous servirons à construire la maison de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes aussi la maison de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 16, toujours 1 Corinthiens 3, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela ? Conclusion, nous devons être des briques de qualité, pour que les murs de la maison arrêtent l'ennemi, les rapaces, les rats, les tempêtes, les renards, tous les prédateurs qui voudraient détruire la maison de Dieu. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, quelle sorte de briques sommes-nous ? quelle sorte de brique es-tu ? Depuis ta naissance, tu portes en toi la nature divine. Mais dans notre société légèrement perturbée par la course à la notoriété, au succès, à la richesse, à la place, à tout cela, quelle fée s'est penchée sur ton berceau ? Quelles attentes a-t-on posé sur ta vie ? Quelle image ton enfance a-t-elle imprimée en toi ? Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux ? Le regard des autres ou le regard de Dieu ? Ça fait beaucoup de questions. Mais toutes ces questions m'ont taraudée pendant des années. Vous savez, j'ai longtemps douté de ma valeur. Je me voyais comme un chef-d'œuvre en péril. Et maintenant, avec le recul du temps, je me dis que j'en étais presque fière d'être un chef-d'œuvre en péril. C'était pas bien, hein ? Mais Dieu m'a parlé. Et je vous propose d'écouter un chant qui m'a touchée, qui m'a bouleversée la première fois que je l'ai entendu. Et qui voit la valeur de chacun sans les lunettes de la course au succès et à tout ce qui fait les enjeux de notre société. Donc voilà, on va écouter ce chant, vous allez voir. Mais vraiment, regardez ces paroles. Je n'allais pas vous dire fermez les yeux, regardez les paroles, non, ça serait incohérent. Mais c'est un chant tellement magnifique et vous allez vraiment voir l'essence de notre valeur. Tu peux y aller ?
Au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber.
Voilà, tu es un miracle. Est-ce que tu crois cela ? Tu es un miracle. Ta valeur vient de l'image que Dieu imprime sur ta vie. Rien ni personne ne pourra rivaliser avec cela. Tu es un miracle. Est-ce que tu peux te dire à toi, parle-toi un peu. Je suis un miracle. Et le réaliser vraiment du fond de ton cœur. Ta valeur est précieuse. C'est un bijou entre les mains de ton papa. Ce que tu es est voulu par Dieu. Et c'est aussi précieux pour ceux qui t'entourent. Vous savez, puisque ce soir on est dans les histoires, je suis sûre que Blanche-Neige, toute patiente comme elle était, elle préférait passer un après-midi avec Joyeux qu'avec Grincheux. Alors voilà, Dieu veut faire de nous des joyeux. Parce qu'il a imprimé l'image de Jésus en nous. Alors ce soir, voilà, je vais vous raconter des histoires. C'est pour ça que je vous disais, c'est un peu atypique. Et pour la première histoire, bien j'ai demandé de l'aide aux super mimes bullois. Vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir. Donc voici les super mimes bullois sur une idée originale de Monsieur de La Fontaine, et voici leur voix off aussi. Peut-être que tu peux le redonner à Isabelle, non ? Avec mamie ?
Le prince Lion et Dame Souricette. C'est le matin. Prince Lion émerge de la maison, suivi par son petit frère. Casquette vissée sur la crinière, raquette de tennis à la patte. Il se sent en pleine forme. Un petit déjeuner délicieux, fruits, céréales, bon lait bio. Il va faire des prouesses que les autres joueurs se le disent. Il va montrer à ce petit prince en herbe qui l'accompagne de quel bois sont faits les princes champions. Absorbé par leur conversation, il pose sa patte sur mai. Qu'est-ce que c'est ? Un ver de terre ? Une ficelle ? Prince Lion se penche pour voir ce qui essaye d'échapper à sa grosse patoune et devinez quoi ? Il découvre Dame Souricette, son chapeau du dimanche sur la tête, un panier dans sa patte gauche, une liste de courses dans la droite. Elle vient de jaillir de sa petite maison, très pressée apparemment. Il faut dire que c'est une maman très occupée. Ses derniers-nés réclament beaucoup de soins. Ses aînés ne sont pas toujours coopératifs. En cet instant précis, elle panique un peu, sa queue prise sous la grosse patte de l'héritier du royaume, le prince Lion. Celui-ci semble beaucoup s'amuser de la situation. En plus, il ne veut pas perdre la face devant son admirateur. Il pourrait l'écraser, la dévorer. Quoique, après des céréales, berk. Une petite voix monte du sol. « Bonjour, Majesté. Pourriez-vous, s'il vous plaît, relever un peu votre patte ? Ma queue est coincée dessous et je dois me dépêcher faire les courses avant les prochains biberons. Si vous me laissez partir, je vous promets de vous rendre service à mon tour quand l'occasion se présentera. » Un gros rugissement de rire redoublé d'un petit cristal accueille ces paroles. « Toi, me rendre service, on aura tout entendu. Voyons, voyons, je n'ai pas faim. Je suis content de ce beau temps. Je veux donner le bon exemple. » Et la grosse patte du lion se soulève un peu, juste assez pour que Madame Souricette puisse détaler ce qu'elle fait sans demander son reste. La journée s'écoule, chacun s'en va et vient dans le silence de cet après-midi très chaud. De la jungle, soudain, un hurlement fait trembler le sol. Oh ! Effrayant, inquiétant, chaque habitant de la jungle se terre dans son trou. Mais Dame Souricette, l'oreille aux aguets, croit reconnaître cette voix. Elle pointe son nez hors de son trou et aperçoit le prince lion emprisonné dans un filet posé par des braconniers. Son petit admirateur essaye bien d'être efficace, mais sans succès. Le gros lion rugit et se démène, resserrant les mailles autour de lui. N'écoutant que son courage et son bon cœur, la petite souris se précipite, couinant ses encouragements au maître des lieux. Elle se met à ronger, grignoter, tirailler les mailles en corde jusqu'à ce que le lion puisse s'extirper de sa prison et se sauver sans perdre une seconde, entraînant son petit frère. Peut-être a-t-il murmuré un merci avec le peu de voix qui lui restait. Le fait est que, depuis cette mémorable journée, les lions marchent en regardant où ils posent leurs pattes. Voilà.
Voilà. Merci, merci beaucoup les enfants. Voilà pourquoi je vous disais de vous approcher devant. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, alors, suite à cette histoire, posons-nous la question. Es-tu lion ? Es-tu petite souris ? Mais cela n'a aucune importance, parce que la destinée de Dieu pour toi est juste à la façon, à la mesure de la façon de te créer. Dieu t'a créé comme ça parce que son plan pour toi était juste, c'est comme ça qu'il fallait que tu sois. C'était un plan juste à ta taille. Dieu a besoin de lions rugissants, mais il a aussi besoin de petites souris fidèles et persévérantes. Le piège du braconnier, vous savez, le vilain braconnier qui nous en veut à nous, ben, c'est de nous comparer, de se comparer. Et d'essayer d'endosser une autre peau que celle que Dieu nous a donnée. Pour donner encore la parole à M. de La Fontaine, Jean de son prénom, résumons l'histoire de sa petite grenouille qui s'est comparée au gros bœuf. Elle l'a vu, elle l'a admiré, elle l'a envié, et puis elle a décidé de devenir comme lui. Mais résultat des courses, l'auteur nous dit qu'elle se gonfla tant et tant qu'elle en mourut. Le mot employé, c'est qu'elle en creva, mais je ne voulais pas vous le dire, mais ça y est. Alors, pourquoi cette grenouille n'a-t-elle pas accepté de rentrer dans son appel de grenouille ? Parce que la puissance apparente du bœuf lui a donné le sentiment d'être insignifiante. T'arrive-t-il de te comparer ? Je crois que ça nous arrive à tous. T'arrive-t-il de te sentir insignifiante par rapport à un tel ou un tel ? De l'envier, de vouloir être comme lui. Vous savez, ce sentiment de petitesse est vieux comme le monde. Le brave Gédéon l'a revendiqué quand Dieu l'appelait pour faire de lui quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne seras jamais insignifiant parce que le Créateur t'a réfléchi, il t'a planifié, il t'a brodé. Dans la version que j'ai, moi, dans ma Bible, c'est Paroles de vie 2017, le psaume 139,15 dit ceci, « Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. » J'aime cette notion de broderie. On coud pour fabriquer un vêtement, on le brode pour le rendre magnifique. Dieu a voulu te rendre magnifique, il t'a brodé. Alors je pense que ça serait bien ce soir que nous lui répondions tous ensemble avec le verset 14 du psaume 139, si tu peux l'afficher. Parce que moi, j'ai une autre version, donc c'est bon ? 139, verset 14. Pardon ? Psaume 139, verset 14. C'est un verset qu'on a souvent du mal à dire quand on ne connaît pas sa valeur. Mais nous allons le dire ce soir. Alors, je ne vois pas, mais... Je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est pour commencer ? Voilà. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Moi, j'ai... Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon cœur est étonnant et beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Il faut le dire tous les jours à notre papa. Ce que tu es est précieux pour Dieu et pour ceux qui t'entourent. Ne te définis pas par tes réussites ou tes échecs. Sois avant de faire. Que ce que tu es soit plus important pour toi que ce que tu fais. Ce n'est pas facile, hein, parce que maintenant, dans notre société, on est assimilé à ce que nous faisons. Hein, tu es important tant que tu peux. On peut tirer quelque chose de toi. Quand tu n'as plus rien à donner, allez, hop, panier. Mais ce n'est pas la mentalité de Dieu. Ce n'est pas sa vision pour nous. Alors, place ta confiance dans l'amour de ton papa, qui t'a dessiné, qui t'a planifié, qui t'a brodé. J'ai lu l'histoire d'un jeune footballeur passionné qui avait réussi à passer les épreuves, à franchir les étapes difficiles pour faire un stage à Clairefontaine. Il est arrivé là-bas. La première semaine, il l'a vécu sur un petit nuage. Alors les WhatsApp avec papa, maman, c'était qu'un feu d'artifice de bonnes nouvelles. Oh, papa, maman, c'est super, je mets tous les ballons dans le but, mais c'est formidable. La deuxième semaine, c'était très bien. Quoique plus niaise, il commençait à avoir des courbatures, il commençait à être fatigué, le petit. La troisième semaine, la lettre était digne des giboulées de mars, surtout, vous savez, des averses et des grêles, du grêlon. Je le cite. « Papa, maman, alors que je ne ratais aucun but depuis 2 semaines, que je pensais être sélectionnée pour la suite de l'aventure, il y a eu un changement. Ils ont mis un gardien dans la cage et il arrête tous mes ballons. Je pense rentrer très vite à la maison. Je crois que je ne suis pas fait pour le foot. » Ce jeune garçon, il s'est évalué par rapport à ses échecs. La difficulté a augmenté et au lieu de se sentir défié, ce jeune homme s'est senti incapable, insignifiant. S'il avait persévéré, il aurait appris à anticiper les réactions du gardien. Il aurait progressé pour entrer dans sa destinée de footballeur. Tes échecs ne doivent pas te plaquer au sol. Ils doivent te défier pour te faire grandir et te qualifier. Quel effet les échecs ont-ils sur toi ? Est-ce qu'ils te mettent en mode Calimero ? Mais c'est pas juste, il n'y a qu'à moi que ça arrive, et pourquoi Dieu m'aime pas ? Ta valeur n'est pas tributaire de tes réussites. Il faut persévérer pour avancer dans la victoire. Le but n'est pas de faire comme les autres, mais de faire ce que tu es destiné à faire. Le jeune footballeur avait pour mission de mettre les ballons dans le but malgré la présence du gardien. Il s'est découragé trop vite. Il a perdu sa mission par abandon de poste. Il s'est découragé. Ah, le découragement. Vous le connaissez, celui-là ? Eh oui. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. Ça nous parle d'agression du découragement et de la réaction que Dieu attend de nous. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ce n'est pas écrit, c'est pourquoi vous êtes découragés, parce que toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Non, vous êtes remplis de joie. Verset 7, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. Ben, c'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, écoutez ça, moi ça m'a bluffé. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. J'ai dit non, ce n'est pas possible que nous recevions honneur, louange et gloire. J'ai cherché dans d'autres versions, mais c'est bien ça qui est écrit. Alors, persévérons pour devenir des champions de Dieu. Vous savez, la nature est une mine d'exemples de la sagesse de Dieu et de la vanité de certaines de ses créatures. Une autre petite histoire, ça vous dit ? Oui ? Alors celle-ci, elle vient du patrimoine africain. Ils en ont tout un stock hein, et c'est très, très chouette. Un jour, M. Coq et M. Canard allèrent se promener au bord du fleuve. Tout en marchant, M. Coq se vantait de sa beauté, de ses couleurs, de tout ce qu'il avait, ses plumes et tout, sa démarche. Et en même temps, il se moquait du canard. Ah, mon pauvre vieux, avec tes pattes qui ressemblent à des feuilles d'arbre et ta démarche dandinante, mais tu es ridicule, mais ridicule, si tu savais à quel point. Ce à quoi le canard répondit. Toi, Coq, c'est vrai que tu es très beau. Tu as une paire d'ailes magnifiques. Avec elles, tu peux voler, et voler très haut sûrement, et très loin. Aïe, aïe. Le coq ne voulait pas avouer sa faiblesse. Il prit son élan afin d'atteindre l'autre rive du fleuve et de montrer ainsi ses capacités. Il voulait dire « I am the best in the air ». In the air. C'est comme ça qu'on dit ? Yes, tant mieux, merci. Mais finalement, il a fini par être « I am the best in the water ». Parce que, au milieu du fleuve, il tomba. Et comme il ne savait pas nager, ben, il sombra, il coula en criant « Au secours, au secours, au secours !» Évidemment, dans toute sa bonté, M. Canard se précipita pour lui venir en aide. Il lui dit « Tu vois, M. Coq, c'est grâce à ces vilaines pattes que je t'ai sauvé. » Le coq eut le bec cloué et il devint tout rouge, tout, de la tête aux pieds. L'histoire dit que, pour lui rappeler sa vanité, il a repris sa couleur, sauf sa crête. C'est pour ça que la crête du coq est rouge. Voilà, maintenant, vous le savez. Hein. Que nous apprend cette histoire ? Une autre près de l'homme, et de la femme aussi, messieurs, ne vous fâchez pas, c'est l'orgueil. Il pousse à se voir supérieur aux autres et à les bombarder de remarques vides d'amour et de compassion, mais aussi vides de réflexion et de sagesse. Le coq savait que ses ailes ne pouvaient pas le porter. Il le savait, hein, il vivait avec. Mais voilà, il n'a pas voulu l'avouer. Sa destinée n'était pas de voler, mais il était pris à son propre piège. Le canard, peut-être, il me semble qu'il était peut-être un peu plus conscient de sa valeur, mais je ne sais pas. Combien de fois avons-nous été ciblés par des remarques qui nous ont rabaissés ? Mais notre Dieu est un Dieu juste et il rend fidèlement à chacun la monnaie de sa pièce. Le plouf du coq l'a ramené à plus d'humilité, enfin j'espère. Toujours, il doit se rappeler qu'il ne faut pas qu'il entreprenne des études d'aviation. Hein. Alors, te sens-tu coq ou canard ? Peu importe, sois juste celui ou celle que Dieu a créé. Le canard ne peut pas prétendre chanter aussi bien que le coq, mais le coq ne peut pas se targuer d'être un nageur hors pair. N'oublie pas, Dieu a un plan juste à ta taille. C'est un chant, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, un chant qu'on chantait avec les enfants à l'école Timothée. Et je vous invite, pour ceux qui le veulent, à vous lever et on va le chanter avec eux. Enfin, pas avec les enfants de l'école Timothée, mais avec d'autres enfants. Voilà, si tu peux nous le mettre, Johan. Merci. Un plan juste à ta taille.
C'est derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours sur son amour.
Voilà, un plan juste à ta taille. Un plan juste à ta taille. Vous savez, on n'est jamais aussi heureux que quand on est dans le plan de Dieu. Est-ce que tu es prêt à l'accepter, même s'il ne correspond pas tout à fait à tes rêves ? Dieu ne fait pas dans le prêt-à-porter. Vous n'allez pas sur Amazon en cherchant plan de Dieu. Ah ouais. Ah, celui-là, il me plaît bien. Je vais prendre la taille 48. Non. Dieu fait dans le sur-mesure un plan juste à ta taille. Celui qu'il a prévu pour toi, ce n'est pas celui qu'il a prévu pour ton voisin, pour ton mari, pour ton ami, pour ton frère, pour ta sœur. Un plan juste à ta taille. Alors, sois toi-même pour entrer dans ce plan. Je vous propose une dernière histoire pour renforcer la leçon que j'aimerais que nous retenions ce soir. C'est bon pour vous ? Vous en avez passé des histoires ? Non ? Ça va ? Alors, l'auteur est inconnu, hein, mais chacun de nous aurait pu, à un moment ou à un autre, l'avoir écrite, l'avoir dite. Un jour, j'ai décidé de tout quitter. Oui. Un jour, j'ai décidé de tout quitter. Quitter mon travail, ma famille, mon église, ma vie spirituelle, tout. Je suis allée dans la forêt pour avoir un dernier entretien avec Dieu, quand même. Voilà. C'était quand même plus poli. J'ai dit, Dieu, peux-tu me donner une bonne raison pour ne pas abandonner ? J'ai été surpris par sa réponse. Il n'a pas répondu à ma question, mais il m'a dit, regarde autour de toi, tu vois là, la fougère et le bambou ? Ah, j'ai répondu évidemment. Dieu m'a dit, quand j'ai planté les graines de fougère et de bambou, je les ai entourées de beaucoup de soins. Je leur ai donné de la lumière, je leur ai donné de l'eau. La fougère a grandi rapidement en sortant de terre. Sa couleur verte couvrait le sol. Cependant, rien ne provenait de la graine de bambou. Mais je n'ai pas abandonné le bambou. La deuxième année, la fougère grandissait encore en étant de plus en plus pleine de vigueur, de plus en plus belle et verte et abondante. Encore rien ne provenait de la graine de bambou. Mais je n'ai pas abandonné le bambou. Dieu a dit, la troisième année, il n'y avait encore rien qui provenait de la graine de bambou. Mais je ne l'abandonnerai pas, dit Dieu. La quatrième année, encore, il n'y avait rien qui provenait de la graine de bambou. Je ne l'abandonnerai pas, dit Dieu. Puis la cinquième année, une toute petite pousse émergea de la terre. Comparée à la fougère, c'était, d'après ce qu'on pouvait voir, ridiculement petit, tout riquiqui, insignifiant. Mais à peine 6 mois plus tard, le bambou s'éleva pour atteindre la grandeur de 30 mètres. Il avait dépensé 5 années à faire grandir ses racines. Ses racines l'ont rendu robuste, lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Je ne donnerai à aucune de mes créatures une tâche qu'elle ne pourra pas accomplir. Dieu m'a dit, « Savais-tu, mon enfant, que tout ce temps où tu as été en difficulté, découragé, déçu, en réalité, tu as fait pousser des racines ?» Dieu m'a dit, je n'abandonnerai pas le bambou, je ne t'abandonnerai jamais, ne te compare pas aux autres. » Le bambou avait un but différent de celui de la fougère. Cependant, ils sont tous les deux partis de cette forêt. Une forêt merveilleuse. Dieu m'a dit, ton temps viendra, tu t'élèveras bien haut. Je demandais, déjà ça me fatiguait, à quelle hauteur devrais-je m'élever ? Il me demanda, à ton avis, à quelle hauteur s'élèvera le bambou ? Je hasardais, aussi haut qu'il pourra. Dieu m'a dit, oui, donne-moi gloire en t'élevant aussi haut que tu pourras. J'ai quitté la forêt et rapporté cette histoire. J'espère que ces mots pourront t'aider à réaliser que Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu ne vois pas de fruits dans ta vie tout de suite, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais, mais toi, ne t'abandonne jamais toi-même. Garde le sourire et surtout garde la foi. Alors, après toutes ces histoires, j'aimerais vous poser une question, maintenant qu'on est entre grands. Comment arriver à se dépêtrer de son passé, parce que le passé, ça nous colle à la peau, et ça nous conditionne pour pouvoir embrasser son présent et envisager le futur à la manière de Dieu. Je répète parce que c'est un peu compliqué. Comment arriver à se dépêtrer de son passé pour pouvoir embrasser son présent, pour vivre aujourd'hui et envisager l'avenir à la manière de Dieu? La parole de Dieu nous apprend que nous sommes tous, dès notre naissance, des pécheurs et nous avons besoin d'être pardonnés. Ça, c'est pas top, hein. Mais elle nous confirme que nous sommes pardonnés par le sacrifice de Jésus. Dieu a effacé notre ardoise. Ça, c'est génial. Elle nous invite à pardonner à notre tour, mais pas uniquement à pardonner les autres, à nous pardonner nous-mêmes. Vous savez, pour moi, ça a été une des choses les plus difficiles, me pardonner. Je me rendais responsable de tout ce qui n'allait pas. Dès que j'étais quelque part et que quelque chose clochait, je disais, c'est ma faute. J'ai sûrement raté un truc. Est-ce que vous êtes comme ça? Si vous l'êtes, Dieu va effacer votre ardoise. Un jour, en discutant avec un ami, je lui disais que moi, je n'avais aucun mal avec ce verset qui nous dit de considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Franchement, je me trouvais très spirituelle à ce niveau-là. Il m'a regardée avec un air non pas admiratif, mais... Et il m'a répondu, c'est faux. Je lui ai dit, comment ça, c'est faux? Qui peut le savoir mieux que moi? C'est moi quand même, c'est de moi que je parle. Il me dit, c'est faux. Tu ne considères pas les autres comme supérieurs à toi-même, tu te considères comme inférieur à tous. Tu dévalorises la création de Dieu. Et ça, c'est un péché. Tu dois demander pardon à Dieu et te pardonner. J'ai eu du mal à avaler, mais voilà. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je faisais confiance à cet ami. Et Dieu a effacé mon ardoise. Il m'a donné un autre regard sur ma vie, sur ma valeur. Nous sommes tous des êtres blessés à cause du conflit entre la nature parfaite que Dieu nous a donnée à l'origine, et la réalité du quotidien. Vous savez, franchement, pouvoir rester tout blanc dans une société où il y a de la boue partout, ce n'est pas évident, hein. Et ça nous entraîne parfois à vouloir quitter la route du plan de Dieu. On dit, ah Seigneur, cette route de ton projet, là, elle est étroite, il y a des nids de poules, il y a des virages, il y a des limitations de vitesse, il y a des radars. Moi, j'en ai marre, maintenant, je vais prendre l'autoroute comme tout le monde. Je veux pouvoir conduire la vitre ouverte, je veux pouvoir doubler tout le monde, je veux pouvoir aller vite. Ça veut dire, en d'autres mots, Dieu, ton projet ne m'intéresse pas. Ça veut dire vouloir être lion ou coq alors que Dieu nous demande d'être canard ou souris. Ou alors bambou ou fougère. Si c'est ton cas, bonne nouvelle, ton ardoise est effacée. Jésus a donné sa vie pour effacer ton ardoise. Tu as pris un mauvais virage, ta vie est dans le fossé. Pas de problème, la dépanneuse divine est déjà sur place. Elle va remettre tes quatre roues sur la route. Et tu pourras faire demi-tour pour reprendre la bonne voie et suivre l'indication que Dieu te donne pour son plan pour toi. Il t'aime et il veut que rien ne fasse obstacle au plan parfait qu'il a pour toi. Et vous savez, si chacun de nous, nous acceptons de nous voir comme Dieu nous voit, nous acceptons de faire ce qu'il attend de nous, notre complémentarité donnera à sa maison, à la famille Josué, la solidité et la qualité qu'ils honoreront. Seul compte la valeur que tu as, que j'ai, que nous avons aux yeux de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais te rappeler, enfin, que Dieu est un finisseur. Je ne sais pas si ce mot existe, mais moi, il me plaît bien. Quelqu'un qui finit toujours ce qu'il a commencé. Le Seigneur ne commence rien sans le terminer. C'est une qualité puissante du Dieu en qui nous croyons. Comme un sage architecte, il a dessiné les plans et de la maison qu'il veut faire de toi. Et avant que les travaux ne commencent, déjà sur son ordinateur 3D, là, il te voit tel que tu seras dans son plan parfait. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus d'être l'architecte, il est aussi le constructeur. Il a les moyens et les capacités nécessaires pour bâtir la maison que tu es. Il sait soutenir et construire les choses qu'il a commencées en toi. Fais-lui confiance et foi en sa capacité de te transformer. Il a commencé une œuvre formidable en toi. Peut-être que tu n'es pas très satisfait de qui tu es pour le moment. J'aimerais tellement être, vous savez moi aussi j'ai dit, j'aimerais tellement être comme. Et un jour Dieu m'a dit, écoute, c'est bon, arrête à moi de me bassiner avec ça, sois toi-même. C'est ce que j'essaye de faire. Ne te décourage pas si c'est ton cas. Il fera de toi ce qu'il a prévu que tu sois. Il a juste besoin que tu le crois. Alors, ne doute pas. Crois seulement. Dieu terminera ce qu'il a commencé en toi. Il ne te lâchera pas. Fais-lui confiance et tu deviendras le fruit de ses merveilleuses promesses. Vous savez, Dieu a une vitrine de finisseur, et tout ce qui est dans sa vitrine, eh bien, ce sont des personnes de valeur et tu en fais partie. Vraiment que si toutes ces choses ont troublé ton cœur, qu'elles ne te troublent plus, sois seulement ce que Dieu veut que tu sois. Seigneur, nous te bénissons parce qu'en donnant ta vie, tu nous as permis de rentrer dans ta maison, Seigneur, et nous voulons être cette brique, cette tuile que tu veux que nous soyons. Seigneur, juste à la taille de que tu as réservée pour nous, juste dans ta volonté, juste comme tu nous veux. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons rouspété, où nous avons envié les autres, où nous avons marmonné qu'on en avait marre. Pardon, Seigneur. Nous voulons juste être celui ou celle que tu as décidé que nous serons. Aide-nous pendant les jours à venir à nous remettre devant toi et à accepter ton plan fait sur mesure. Merci, Papa, pour tant d'amour. Amen.